Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
La contestation se poursuit en Turquie pour le sixième jour consécutif. Hier soir encore, les manifestations ont été massives, on va en parler tout de suite. Dans cette émission également, le témoignage d'un soldat ukrainien et un dossier sur la pollution au plastique qui nous conduira à Brest. Bienvenue dans Accent d'Europe. La répression en Turquie avec l'arrestation ce matin d'au moins 8 journalistes. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a passé sa première nuit en prison. Le principal opposant, Recep Tayyip Erdogan, avait été démis de ses fonctions dans la foulée de son incarcération pour corruption hier. Devant la mairie d'Istanbul, dimanche soir, l'appel au rassemblement a été massivement suivi. Pour l'opposition, l'enjeu est de maintenir la pression sur le président Erdogan. Avec un mot d'ordre, Korkma n'aie pas peur. C'est ce que Güney Efe, un étudiant de 21 ans, avait écrit sur sa pancarte.
Il faut propager ce mot d'ordre, n'aie pas peur, parce que de façon générale, effrayer, c'est l'un des outils du gouvernement, avec le pouvoir de la police, avec le pouvoir des médias. Et nous devons crier partout, à tous, qu'il ne faut pas avoir peur. C'est la seule façon de ne jamais reculer, de toujours avancer, un pas après l'autre. Je ne suis absolument pas désespéré. Dans les histoires, les héros naissent toujours des difficultés qu'ils affrontent. Je pense qu'il en sera de même pour Ekrem İmamoğlu. C'est lui notre vrai leader actuellement. Et pour qu'à l'avenir, il devienne réellement le dirigeant de toute la Turquie, il nous faut simplement être patient. Oui, c'est ça, être patient et continuer à résister.
Un témoignage recueilli à Istanbul hier par notre correspondante Anne Andlauer. Bonjour Dorothée Schmid.
Bonjour.
Vous dirigez le programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Merci d'être avec nous. Est-ce que l'optimisme de ce manifestant est justifié? Est-ce qu'Ekrem İmamoğlu pourrait revenir en politique avant la présidentielle?
Quand j'entends le manifestant qui s'exprime, là, je trouve intéressant de voir que on est au début du printemps. Donc, il y a quelque chose qui résonne un petit peu avec les grandes mobilisations de Gezi, un peu plus de 10 ans en Turquie au printemps. Simplement, il dit qu'il faut être très patient. Et là, je crois que c'est un petit peu plus inquiétant parce qu'en réalité, le vrai bras de fer, il se joue maintenant. Je crois que si İmamoğlu reste en prison, on peut aussi petit à petit l'oublier, comme on a oublié Selahattin Demirtas, le leader kurde qui a été emprisonné en 2016. Et ce qui compte, c'est surtout que le parti d'İmamoğlu, le CHP, reste uni. Or, c'est un parti qui est quand même miné par des querelles d'ego. Donc, c'est très bien d'avoir un martyr en prison, mais les choses peuvent se recomposer très rapidement aussi, une fois qu'il est neutralisé parce qu'il est en prison.
Ce mouvement de contestation, s'il se poursuit, peut-il représenter une menace pour le pouvoir ?
Oui, je crois que c'est un vrai problème. Erdogan l'a compris en disant qu'il ne se laisserait pas faire par la terreur de la rue. Il y a beaucoup d'arrestations aujourd'hui de journalistes, de blogueurs, d'influenceurs. On essaie vraiment de faire taire la contestation par tous les bouts parce que le mouvement, il est lent, il prend progressivement et il va falloir pour le pouvoir essayer de le casser. Or, pour le moment, ce qui est important dans cette contestation, si on la compare à celle de Gezi, c'est que Gezi, en 2013, c'était un mouvement spontané des citoyens. C'est un mouvement qui n'avait pas de structure et qui a eu beaucoup de mal à s'organiser, je dirais, pour avoir des revendications. Alors que là, on a quand même les partis politiques, le CHP d'abord, mais aussi d'autres partis d'opposition qui sont à la manœuvre. Et donc ça fait quand même une différence en termes d'organisation, de messages politiques, et donc de capacité de durée hein, pour la résistance.
Dorothée Schmid, je voulais aborder la question des relations avec l'Europe. L'Union européenne a besoin de la Turquie dans plusieurs grands dossiers, et dont évidemment celui de la guerre en Ukraine. Quel impact peut avoir la situation intérieure ?
Alors moi d'abord, je suis frappée de la tiédeur, je dirais, des réactions européennes. Alors c'est intéressant parce qu'il y a encore quelques années, après Gezi, mais aussi après la tentative de coup d'État en 2016, la relation avec la Turquie s'était beaucoup politisée et les États membres de l'Union européenne étaient quand même beaucoup plus durs sur ces questions politiques. Mais aujourd'hui, la Turquie leur a tellement dit qu'il fallait respecter sa souveraineté et que ce qui se passait en Turquie ne regardait que la Turquie que personne n'ose tellement s'exprimer, j'ai l'impression. Et on sait qu'on n'a pas de levier. Et on a d'autant moins de levier qu'effectivement, activement depuis une dizaine de jours. On parle quand même beaucoup d'une possible contribution de la Turquie au dispositif de sécurité européen qui est en construction, et notamment de ce que la Turquie pourrait faire pour équilibrer la relation russo-ukrainienne, puisque pendant toute la guerre, elle a maintenu une relation avec les deux pays et elle a proposé aujourd'hui d'envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Les Russes ont dit qu'ils ne voulaient pas de troupes de l'OTAN, donc ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, les Turcs savent que sur la question de la défense, ils sont vraiment en position de force parce qu'ils ont d'abord une armée très nombreuse. Alors c'est une armée de conscription, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi ce qui fait le nombre. Mais c'est aussi une armée qui aujourd'hui a sa propre base industrielle, qui donc produit des armements, qui vend beaucoup d'armements à l'extérieur, et notamment ces fameux drones qui sont très utilisés à tout niveau de conflit, et dont beaucoup de pays européens sont clients. Hein, ils ont acheté à la Turquie des drones, je pense à la Pologne par exemple, qui est aussi le fer de lance de notre défense européenne en principe. Donc on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec la Turquie, parce que le but c'est quand même d'amener la Turquie du côté de l'Union européenne dans cette entreprise d'équilibrage du continent, voire de défense de l'Union européenne. Et donc on est dans ce moment d'incertitude sur les choix géopolitiques de Tayyip Erdogan. Donc dans ce contexte, puisqu'on a aussi en arrière-plan la question migratoire, la question des réfugiés syriens, je crois que personne n'a envie de contrarier trop fortement Tayyip Erdogan. Alors on attend un peu sagement de voir comment vont évoluer les événements.
Dorothée Schmidt, directrice du programme Turquie-Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. La semaine dernière, l'Ukraine et la Russie ont échangé chacune 175 prisonniers de guerre. Certains soldats ukrainiens retrouvaient la liberté après plus de 2 ans de prison. Le sort de ces détenus, qui se comptent par milliers, fait d'ailleurs partie d'un volet à part entière dans la proposition de cessez-le-feu de Volodymyr Zelensky. Taras, 39 ans, a été libéré à la faveur d'un de ces échanges de prisonniers en juin dernier. Cet ancien soldat ukrainien a passé 20 mois en Russie, dans différentes prisons. Il a confié son récit à notre correspondante Cerise Sudry-Ledu.
Impossible de le rater, à la sortie du métro, Taras porte un survêtement bleu et jaune éclatant aux couleurs du drapeau ukrainien. Il sourit. Ce survêtement, c'est désormais son uniforme.
Je sors souvent comme ça, pour que les gens n'oublient pas ce qu'est l'Ukraine et qu'ils ne prennent pas les choses à la légère.
En ce début de printemps, il propose de s'asseoir sur un banc au bord d'un lac. Des couples déambulent et les canards se baignent tranquillement. Mais quand il entame son récit, chaque mot est un contraste frappant avec le calme environnant. Taras, qui avait déjà combattu en 2014, a repris du service en septembre 2022 après avoir vu la barbarie de l'armée russe dans la ville de Mariupol au sud de l'Ukraine. Plongé dans ses souvenirs, l'homme raconte avec des détails presque chirurgicaux le calvaire qu'il a subi et l'horreur s'invite sur ce banc.
J'y suis allé de moi-même après qu'ils ont bombardé la maternité de Mariupol. J'ai traîné un mois devant le bureau de recrutement militaire en leur disant « Mais bordel, envoyez-moi quelque part
!» Malgré son 1m89, Taras devient tankiste, un poste d'ordinaire réservé aux petits gabarits. Mais après un mois, alors en mission dans l'oblast de Kherson, son convoi est attaqué. Plusieurs de ses camarades sont tués. Avec 6 autres, il se terre et erre à travers champs pendant 4 jours, sans eau et sans nourriture. Ils finissent par être trouvés et mis en joue par des soldats russes. Taras considère qu'il a eu de la chance. D'abord envoyé en Crimée dans une académie militaire, il y retrouve d'autres prisonniers. Les conditions ne sont pas trop mauvaises, mais ça ne va pas durer. Il grince.
C'est chez les Russes que le plus amusant est venu. L'accueil était amusant. Les gardiens formaient une haie avec aussi des chiens. On devait marcher, courber, les mains gelées. Et en chemin, on se prenait de tout. Des coups, des décharges électriques, tout. Certains se faisaient même mordre par les chiens.
Taras décrit ici la Priyomka, une tradition cruelle à l'arrivée dans une nouvelle prison détaillée par de nombreux anciens prisonniers ukrainiens. Par la suite, les mauvais traitements sont quotidiens. Il survivait à 16 dans une cellule avec une minuscule fenêtre fissurée. Et si dans beaucoup de prisons, les prisonniers doivent rester debout des heures, pour lui, c'est le contraire.
On était assis face à face en permanence. Nos jambes gonflaient, on ne pouvait pas marcher. Mais le plus intéressant, c'était le bain, une fois par semaine. Là, on pouvait se faire tabasser pour n'importe quelle raison. On devait tout le temps être plié en deux quand on se déplaçait, et les gardes portaient toujours des masques. Dans les douches, ils utilisaient des tasers électriques, sur nos corps mouillés, n'importe où. Les parties génitales, l'arrière du crâne, partout.
Un jour, Taras reçoit une décharge dans la colonne vertébrale. Il s'évanouit.
Il n'y a pas d'assistance médicale. Et quand tu dis que tu dois consulter parce que ta jambe est en train de pourrir, on te répond « fais des squats, ça aidera ».
Un matin, les gardiens entrent dans la cellule et annoncent à certains qu'ils vont être échangés. Taras embarque pour un périple de 24 heures en bus. Il est peu disert sur le moment de sa libération. Sa mère et son frère, prévenus quelques heures plus tôt, n'ont pas pu venir pour l'accueillir.
Il y avait l'équivalent de 5 ou 6 villages réunis, des enfants et des adultes avec des drapeaux qui filmaient, lançaient des bonbons et tout ça. Je ne m'y attendais pas. Je ne fumais plus, mais quand je suis descendu du bus, j'ai allumé une cigarette.
Depuis, il est passé par plusieurs hôpitaux. Il a aussi commencé le tir à l'arc dans un programme pour vétérans et il veut aider d'autres anciens prisonniers à se remettre sur pied.
Je veux devenir psychologue militaire et à travers le sport, montrer aux gens qu'après toutes ces épreuves et ces moments difficiles, on peut pratiquer une activité. Même les gens en fauteuil roulant peuvent jouer au bowling.
Quand Volodymyr Zelensky parle d'un échange de prisonniers, il est partagé. Il ne fait pas confiance à Vladimir Poutine.
Bien sûr, j'aimerais y croire, mais je doute. Et puis Poutine parle de la Convention de Genève, mais les Russes ne l'ont même pas signée.
Avant de partir, il tend un patch imprimé il y a quelques semaines. Dessus, des mains d'un prisonnier sur des barreaux, et cette phrase « N'oublie pas la détention ». Puis il s'éloigne dans ce survêtement bleu et jaune, comme un drapeau ambulant dans les rues de la ville.
À l'instar du changement climatique, la pollution au plastique est une crise planétaire. D'après certains scientifiques, d'ici à 2050, la quantité de plastique présent dans les océans sera supérieure à celle des poissons. La France va accueillir en juin prochain à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Mais un peu partout dans le pays, la société se mobilise. À Brest, en Bretagne, le fonds Océanopolis Act organise chaque année une collecte de déchets pour sensibiliser les habitants. La prochaine a lieu ce samedi. Olivier Favier a rencontré les organisateurs.
Nous sommes sur la plage du Moulin Blanc, un lieu de villégiature apprécié des Brestois. C'est aussi le principal point de rendez-vous de la collecte. Christelle Carfrantan, directrice d'Océanopolis Axe, explique d'où viennent les déchets qui seront ramassés.
Suite aux tempêtes, il y a des déchets qui arrivent naturellement par le vent dans la mer. Il peut y avoir aussi des déchets qui sont déposés par des personnes qui effectivement déposent leurs batteries, leurs pneus ou autres. Ça peut être également des déchets qui viennent de la rivière, puisque là, en venant du Moulin Blanc, nous avons la rivière qui se déverse dans la mer. Il faut se rappeler quand même qu'il y a plus de 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer qui viennent de la terre. Donc naturellement, nous tous, citoyens, terriens, on a une action possible pour éviter que ces déchets de nos activités humaines ne soient déversés dans la mer.
Ce jour-là, canettes, bouteilles et sacs poubelles sont fort heureusement absents. Flâneurs et flâneuses du bord de plage pourraient très bien passer à côté de la pollution plastique. Mais il suffit de fouiller la laisse de mer, ce dépôt que l'océan abandonne derrière lui en se retirant, pour découvrir rapidement une quantité impressionnante de petits déchets. Tristan Attin est responsable de médiation et culture scientifique.
C'est une des remarques du public quand on commence la collecte. Ils s'attendent à voir des gros déchets partout. Mais en gros, quand on arrive sur la plage, on se dit « Oh, il y a plein de choses à ramasser ». Au début, souvent, ils se disent « Finalement, ça a l'air propre ». Et quand on se penche dans cette fameuse laisse de mer, ben finalement, assez vite, on va voir qu'au milieu de ces algues, eh ben, il y a des choses qui s'y cachent. Comme là, par exemple, j'ai trouvé assez rapidement un petit morceau de filet de pêche, donc un type de pollution. Aussi, ici, un filament en plastique. Alors, ça peut venir de différentes sources, aussi bien activités aquacoles ou encore emballage alimentaire. Et donc, vraiment, ça va permettre au public, comme ça, de voir ces petits déchets devant lesquels on passe. Finalement, quand on se balade, on n'y fait pas attention. Pourtant, les scientifiques montrent bien, justement, que même si elle est quasiment invisible, cette pollution, elle a bien un impact réel et concret sur les organismes marins. Rien qu'ici, de la rade de Brest, il y a des études qui ont été menées, par exemple, sur les huîtres ou sur certaines espèces de poissons.
Parmi ces petits déchets, les bouts de ficelle verte sont malheureusement fréquents sur tous les littoraux. Une étude de 2022 a montré que 16 millions de kilomètres de lignes de pêche sont perdus chaque année par les navires. Avec cela, on pourrait faire près de 400 fois le tour de la Terre.
Ces morceaux de filet, les scientifiques estiment qu'il faut 600 ans pour qu'ils se dégradent totalement. Et là aussi, il y a des entreprises qui agissent où ils se disent les filets de pêche, ils sont utilisés que quelques mois dans l'océan, ils dureraient pendant 600 ans. Quand ils sont trop abîmés, ces entreprises récoltent ces filets de pêche et en font par exemple, en les refondant, des armatures de lunettes ou des armatures de montres.
Chacun d'entre nous peut contribuer à la dépollution des plages en ramassant ce qu'il trouve autour de lui. Mais tous les déchets ne sont pas forcément recyclables.
La plupart des déchets finalement qu'on va pouvoir trouver sur les plages, malheureusement, ils ont été souillés par l'eau de mer. C'est une des problématiques de la pollution plastique, c'est de nombreux micro-organismes vont pouvoir se fixer dessus, ça va pouvoir détériorer aussi la qualité du plastique. Et donc souvent, c'est du plastique qui va ne pas pouvoir être recyclé convenablement. Donc souvent, on conseille plutôt de le mettre dans la poubelle d'ordures ménagères. Malheureusement, c'est quelque chose qui va très peu pouvoir être revalorisé par la suite.
La pollution plastique est souvent associée à l'image d'un septième continent de micro-déchets au milieu de l'océan. Pourtant, les causes et les conséquences de cette pollution sont de notre responsabilité.
Donc ça, c'est une donnée qui a été mise en évidence par les chercheurs. Les déchets qu'on va retrouver sont essentiellement liés à nos activités. On ne va pas pouvoir dire c'est à l'autre bout du monde qu'on a pollué et on reçoit le résultat de cette pollution lointaine. Non, c'est les pollutions, la pollution qu'on génère ici, en local. Et finalement, alors plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'au niveau local, on peut agir pour essayer de trouver les solutions. Et justement, c'est le but de ces collectes, c'est de montrer au public, mettre un peu les mains dans le cambouis, se rendre compte des différents types de déchets que l'on retrouve pour les sensibiliser et voir quelles actions on peut mettre en place pour limiter l'arrivée de ces déchets justement dans le milieu marin.
La proximité d'une grande ville représente aussi une menace pour le littoral et pas seulement du fait des activités industrielles et portuaires. L'un des lieux de collecte du défi plastique se situe d'ailleurs en plein centre de Brest, nous rappelle Christelle Carfontan.
Depuis l'année dernière, nous avons décidé de sensibiliser le grand public aux mégots particulièrement. Et en fait, en partant du centre-ville, il y a énormément de mégots. Pour vous donner une idée, en mars dernier, nous avons collecté 12 000 mégots en moins de 2 heures.
L'an dernier, 750 bénévoles s'étaient mobilisés pour la collecte. Mais le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas.
Le plastique génère aussi les microplastiques, ces particules qui sont présentes partout, dans l'eau que nous buvons, dans la nourriture que nous mangeons, dans les cosmétiques. À Bruxelles, une première législation sur le sujet est entrée en vigueur en 2023. Mais les discussions ont repris à la Commission européenne pour tenter de faire adopter un nouveau texte plus contraignant, Elena Loison.
Oui, dans le viseur de Bruxelles, cette fois-ci, les micro-granulés de plastique sont la matière première de fabrication de tout ce qui contient du plastique. Des dizaines de milliers de tonnes de ces pellets de 5 mm s'échappent chaque année dans les terres et les eaux, rien qu'en Europe, notamment pendant leur transport. Et ils ne sont pas biodégradables. Les négociations entre Parlement, Commission européenne et Conseil ont débuté en janvier dernier. Une nouvelle session de discussion doit avoir lieu à la mi-avril. Sur le principe, tout le monde est d'accord, il ne s'agit pas d'interdire ces pellets, mais plutôt de durcir les conditions de leur utilisation. Les industriels qui les produisent, transforment ou transportent devront adopter des mesures contre les déversements accidentels, mais aussi s'engager à réaliser des opérations de nettoyage en cas de besoin, au risque de recevoir des sanctions.
Elena, vous disiez, sur le principe, tout le monde semble d'accord, mais ce texte fait l'objet encore d'intenses négociations en coulisses.
Oui, c'est sur le périmètre d'application du texte que les positions divergent et cela génère des débats tendus. Le Conseil et le Parlement voudraient que le secteur du transport maritime soit concerné également par les obligations de contrôle des déversements accidentels. La Commission, soutenue par plusieurs pays comme la Croatie, Malte ou Chypre, estime, elle, que ce n'est pas à l'Union européenne de statuer pour ce secteur, mais à l'Organisation maritime internationale. Les pays opposés craignent que ces mesures ne créent des formes de concurrence déloyale au niveau mondial entre les navires soumis à ces obligations européennes et les autres. Une ébauche de compromis a été évoquée. Il s'agirait d'accorder un délai de 3 ans au secteur du transport maritime pour s'adapter au règlement européen quand il sera en vigueur. Une solution qui ne convient pas complètement aux États opposés à l'intégration du transport maritime dans ce texte.
Elena Loison, correspondante à Bruxelles. À la réalisation, Théo Raison, Accent d'Europe, c'est aussi un podcast à retrouver à tout moment sur RFI Pure Radio. À demain.